Que ce soit avec votre voisin, notre conjoint, notre propriétaire, un entrepreneur en construction ou encore notre employeur, les risques de mésentente et de conflits sont bien réels. Quand un conflit naît, il existe plusieurs solutions pour le régler. Entre autres, on peut penser aux ententes à l'amiable ou encore au recours aux tribunaux. Mais il y a des personnes qui pourraient vouloir se faire justice elles-mêmes. Mais certaines, est-ce que c'est une bonne idée? On peut se poser la question. Pour en discuter, on accueille Maître Marc-André Gagnon du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Allô, Marc-André.
Bonjour, Annick.
André, premièrement, ça veut dire quoi exactement se faire justice soi-même?
En fait, je dirais que se faire justice à soi-même, c'est d'appliquer ce qu'on trouve juste. Et ça, peu importe ce que la loi va dire. On va voir que se faire justice à soi-même, ça crée plus souvent des problèmes que ça génère des solutions, sans compter que ça peut faire complètement dégénérer un conflit. Aujourd'hui, on va regarder ensemble des exemples en matière de droit criminel, de droit du logement, de droit du travail et aussi en matière de conflit de voisinage.
On va commencer par le droit criminel. Quand on pense à se faire justice à soi-même, on pense souvent à la victime d'un crime violent qui déciderait d'utiliser elle-même la violence pour se venger de son agresseur. Et dans cette situation, c'est quoi les risques pour la victime qui se venge?
En fait, c'est assez simple, Nick. La victime qui décide d'utiliser la violence contre son agresseur pourrait elle-même faire face à des accusations criminelles, voire même être emprisonnée et avoir un dossier criminel. En plus, dans certains cas, le désavantage, c'est que le fait de se venger pourrait miner sa crédibilité en tant que témoin dans le cadre des accusations portées contre son agresseur, et aussi augmenter les chances que l'agresseur soit acquitté, soit remis en liberté. Donc, ce qu'on va recommander pour la victime d'un crime violent, c'est de premièrement d'assurer sa sécurité, ensuite, aller chercher le soutien qui est nécessaire, porter plainte aux policiers et collaborer avec les intervenants du système de justice pour s'assurer que le crime qui a été commis ne reste pas impuni
puis qu'on prenne, on prenne la punition pour l'autre, en fait.
Effectivement, on veut que ce soit l'auteur initial du crime qui soit puni, pas que nous-mêmes, on soit pris avec les conséquences d'une vengeance.
Fait qu'il faut penser à notre affaire. La victime d'un crime violent pourrait utiliser la force pour se défendre. On entend ça régulièrement. De quoi on parle, là?
Bien, en fait, oui, on peut utiliser la force pour se défendre. À ce moment-là, on va parler de légitime défense, pas de vengeance. Je tiens à préciser que la notion de légitime défense, bon, est souvent incomprise et utilisée à toutes les sauces, mais juridiquement, ça implique que la force soit utilisée contre nous. Puis c'est seulement à ce moment précis-là qu'on peut nous-mêmes utiliser la force pour se défendre. Donc, par exemple, on ne pourrait pas retourner voir notre agresseur la semaine suivante pour lui faire passer un mauvais quart d'heure. Ça ne se qualifierait pas de légitime défense, même si notre objectif serait de dissuader la personne qui nous avait agressé en premier lieu. Donc, aussi, notion importante, quand on utilise la force pour se défendre, encore faut-il utiliser une force raisonnable dans les circonstances. Si on a déjà réussi à maîtriser notre agresseur et qu'on continue de le rouer de coups, on ne sera pas protégé par la notion de légitime défense. Et ça, même si c'est l'autre personne qui a commencé, même si on croit que la personne méritait une petite leçon.
C'est tellement pas ce qu'on pense. C'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui pour bien expliquer ça aux gens. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple en matière de droit du logement?
Oui, c'est un autre domaine où il peut y avoir des problématiques là, en lien avec se faire justice à soi-même. Donc, je vous donne un exemple. Prenons une situation là, où il y a de la moisissure qui se crée dans un logement. Cette moisissure-là est créée par une infiltration d'eau, par exemple, qui est aucunement de la faute du locataire. Donc là, il devrait y avoir des travaux de réparation qui devraient être entrepris rapidement, des travaux qui devraient être à la charge du propriétaire. Si le propriétaire ne fait rien, il est fort probable qu'il y ait une partie du logement qui sera plus utilisable. Un locataire pourrait donc être tenté de se faire justice à lui-même et de ne pas payer son loyer pour mettre de la pression sur son propriétaire et le pousser à faire des travaux.
Mais moi, j'entends ça souvent. Là. Je le lis régulièrement en plus. Les gens, ils font ça. Et c'est peut-être pas une bonne idée.
Non, ça peut paraître logique, mais je mettrais cette solution-là dans la catégorie des fausses bonnes idées. En fait, le risque, c'est qu'en ne payant pas son loyer, le locataire il va ouvrir la porte à ce que le propriétaire dépose une demande en résiliation de bail au tribunal administratif du logement. Donc, à la place de voir son logement réparé, être mis en état, le locataire pourrait être expulsé, ce qui n'était certainement pas son résultat souhaité. Donc, dans la situation, le locataire devrait utiliser une marche à suivre assez claire. Je vous la dis. Étape 1, aviser le propriétaire de la problématique dans un délai raisonnable. Et je vais rajouter idéalement par écrit.
Ben oui, parce que c'est notre seule preuve.
Ben effectivement, et la loi est claire. On doit aviser le propriétaire quand il y a des réparations qui sont à effectuer. Étape 2, si le propriétaire n'agit toujours pas, s'adresser au tribunal administratif du logement pour être autorisé à exécuter les travaux. Par la suite, étape 3, effectuer ou faire effectuer les travaux qui ont été autorisés par le tribunal. Et étape 4, à ce moment-là, on peut retenir le prix des travaux qui ont été autorisés sur le loyer qu'on aurait dû payer normalement.
Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Je trouve ça intéressant de le savoir, que tu nous en parles ce matin.
C'est un recours qui existe, qui va mettre de la pression sur le propriétaire qui ne respectera pas ses obligations et ce qui va protéger le locataire là, de demande d'expulsion, de résiliation de bail.
Puis en matière de droit du travail, Marc-André, comment un employé pourrait-il se faire justice à soi-même? Puis ça pourrait être quoi les conséquences?
Bien, en tant qu'employé, c'est possible qu'on ne soit pas toujours d'accord avec les décisions de notre employeur. Ça pourrait être tentant de le critiquer sur la place publique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les employés ont un devoir de loyauté envers leur employeur en vertu du Code civil du Québec. Donc, je vais vous donner un exemple concret là, qui met en cause le devoir de loyauté des employés. Donc, en 2014, il y a un employé d'une entreprise de transport ferroviaire qui a ouvertement critiqué sur les réseaux sociaux la gestion de son employeur. Ça faisait suite à un incident. Donc, peu de temps après, l'employé a retiré ses propos et a même présenté ses excuses, mais l'employeur a tout de même décidé de le congédier. L'employé a contesté son congédiement devant un arbitre de grief parce qu'il était syndiqué, et au terme des procédures, l'arbitre a reconnu que l'employé avait manqué à son devoir de loyauté, mais il a remplacé un congédiement par une suspension d'une semaine sans salaire. Donc, dans ce contexte-là, il aurait été beaucoup plus constructif et moins dommageable pour l'employé de discuter de la problématique avec son gestionnaire, de lui proposer des solutions pour éviter que la situation ne se reproduise.
Puis en même temps, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il y a des situations où des employés pourraient légalement critiquer leur employeur?
Oui, il y a des situations où ça pourrait être possible. Il faut quand même savoir que dans la majorité des cas, l'obligation de loyauté va surpasser la liberté d'expression. Et les employés devraient faire preuve de retenue avant de critiquer leur employeur. Par contre, on pourrait faire exception à ce principe-là dans le cadre de négociations collectives. Ça arrive fréquemment qu'on entend des personnes critiquer leurs conditions de travail dans le cadre de négociations de grève, par
exemple.
Oui,
bien, on voit ça régulièrement.
Ça pourrait être aussi le cas si on fait des critiques dans l'intérêt général. Donc, un lanceur d'alerte qui voudrait protéger la santé ou la sécurité du public, ça pourrait être une exception qui pourrait passer outre son devoir de loyauté.
Au moins. En terminant, est-ce que tu peux nous donner un exemple où on ne devrait pas se faire justice à soi-même dans le cadre d'un conflit entre voisins, par exemple?
Bien sûr, l'exemple le plus simple, en fait, c'est le voisin qui décide de couper les branches de l'arbre de son voisin parce qu'elle s'avance sur son terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi ne permet pas de couper nous-mêmes les branches de notre voisin.
OK, mais ça veut dire que si, mettons, l'arbre, il y a des grandes branches qui sont sur mon terrain, qui s'étendent sur mon terrain, je ne peux pas aller couper les branches moi-même.
Exactement. Si l'arbre, le tronc d'arbre est chez le voisin, que les branches y empiètent sur votre terrain, vous ne pouvez pas les couper par vous-même. Il faut que vous demandiez au voisin de couper ses branches. Et si les branches nuisent sérieusement à l'usage de votre terrain, il existera des recours pour s'adresser aux tribunaux pour contraindre le voisin à les couper. Autrement, si on se fait justice à nous-mêmes, qu'on décide de couper les branches, ça pourrait donner ouverture à un recours en dommages et intérêts. Donc, le voisin dont les arbres ont été endommagés pourrait, par exemple, aller devant la Cour des petites créances pour obtenir une compensation en argent.
Marc-André, c'était très intéressant. Je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont appris des choses. Et tu vas continuer sur ce sujet-là la prochaine fois, quand tu vas revenir?
Oui. Au courant du mois de février, je vais faire d'autres exemples parce que c'est nombreux. Je pense que ça vaut la peine qu'on regarde d'autres situations. D'ici là, si les auditeurs ont des questions juridiques, ils peuvent nous appeler au Centre de justice de proximité. Je rappelle notre numéro de téléphone, le 418-412-7722. Et je termine, si tu me permets, Annick, je profite de l'occasion pour inviter les auditeurs à participer à notre séance d'information juridique gratuite sur la Cour des petites créances qui se tient ce soir à 18h par visioconférence. Pour ceux qui sont intéressés, consultez notre site Internet. Vous y retrouverez le lien au justicedeproximité.qc.ca/calendrier.
Merci beaucoup, Marc-André.
Merci, Annick.
À très bientôt, il est 10h20.